Allô?
Oui, bonjour, c'est Marie à Culture.
Oui, bonjour, vous êtes là?
Ouais, on est là. Et en fait, ça donne sur une petite grille.
Ouais, c'est ça.
Enfin, sur
une grande porte.
Les stores.
Oui, les stores.
Ok, ça. Super.
À tout de suite.
À tout de suite, merci. Bonjour.
Bonjour.
Je laisse là dans le couloir.
Là, ça ne gênerait personne à ce stade-là. Il n'y a personne, mais ça gêne personne.
On peut monter si vous voulez.
Ouais,
vous
voulez
un café,
de l'eau,
alors. France Culture.
Je vais ramener les bouquins ici parce que d'habitude, ils sont chez moi.
Ok. Mais... là, c'est votre studio, du coup.
Alors, ici, c'est mon studio, ouais, c'est mon atelier.
Le book club.
Je fais des œuvres, des sculptures, des machins, quoi. Alors, est-ce que j'ai de l'eau? Peut-être que j'ai un truc.
Ça, c'est très bien, ça.
Dans la bibliothèque de Mohamed Bourouissa.
C'est quoi? C'est un coca?
Ça, ce qui paraît, c'est très bon, c'est très hype.
Sparkling water coconut.
Voilà.
Bah, j'essaie, franchement.
Marie Richeux.
Mohamed Bourouissa est photographe, réalisateur et artiste plasticien. Il expose son travail depuis plus de 15 ans en galerie et dans les musées de nombreux pays. Ses œuvres naissent souvent d'une immersion sur un territoire. Il est connu par exemple pour avoir produit une vision des banlieues populaires en croisant ses représentations avec une fine connaissance de l'histoire de la peinture. Son travail questionne les notions d'enfermement, celles de marginalisation, d'aliénation ou encore de résistance. Il nous accueille un soir dans son atelier à Gennevilliers, un grand hangar où se bâtissent les œuvres surplombées d'un bureau et d'un studio de musique. D'abord, il nous dit qu'il est la pire personne pour nous parler de textes, de lecture ou de livres. Et puis, 2 heures plus tard, il insiste pour nous lire à voix haute un très beau poème d'Etel Adnan. C'est que le début de l'histoire entre lui et la lecture a été violente et chaotique. Et ce qui est beau, c'est que plusieurs des textes qu'il choisit de partager avec nous ce soir-là pour son portrait bibliothèque éclairent à leur façon ce début contrarié. Lire, en bref, pour mettre des mots là où il en manquait. Suivons donc Mohamed Bourouissa sur ce chemin-là.
Ouais. Ok. Bon, bah, c'est un peu le bazar ici. C'est un peu mon bureau perso. C'est là où je mets mon bazar. Il n'y a pas de logique vraiment. Enfin, s'il y en a une, mais pas vraiment. Enfin, un petit peu.
Donc, c'est ce qu'on appelle votre studio.
Alors là, on est dans mon atelier, mais là précisément, on est dans mon bureau de mon atelier. Et en bas, en fait, c'est là où je fabrique des sculptures. Et là, ici, c'est là où j'ai mon studio de musique, juste ici. Et c'est là où je dessine, je réfléchis, je travaille, perso, là. Et d'habitude, non, on est 4, 5.
Mais dans cette pièce, je veux dire.
Dans cette pièce, oui, c'est la pièce où j'essaie d'être seul. Voilà.
Est-ce qu'il y a des livres dans ce bureau?
Ouais, il y en a. Il y a beaucoup de livres sur l'art. Il y a des livres, il y a d'autres livres, il y a un peu tout et n'importe quoi. Hein. Après ça, c'est des choses... Après, je commence des livres, je les finis jamais. Je les achète, je les finis pas. Genre, Alain Damasio, j'ai commencé à lire La Zone du Dehors. J'avoue que j'ai pas trop capté. Et les romans, c'est pas trop mon truc. Moi, c'est plutôt des livres un peu de philo. J'aime bien. Après, il y a certains romans que j'aime bien. Et après, bien, je commence à un peu aimer la poésie. Ça c'est quoi ça? Bon, ça c'est des trucs, Etel Adnan aussi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Voilà.
Le livre de Félix Guattari, ça veut dire quelque chose ou pas?
Félix Guattari, lequel?
Ça
pour le coup, je l'ai vraiment, oui. Ça vraiment, oui, ça j'ai vraiment lu, ça oui, ça oui. Ça m'a vachement inspiré, oui, ça m'a fait comprendre pas mal de choses. Ça oui, ça je l'ai presque fini on va dire. Je l'ai fini pas vraiment, donc je l'ai presque fini. Après, j'ai beaucoup de livres d'art aussi,
donc
d'artistes. Ouais, que je regarde ou que je regarde pas obligatoirement, mais c'est aussi souvent des catalogues. Alors, des fois, j'ai des catalogues d'expositions qui sont liés à des expositions à lesquelles j'ai participé. Mmh. Par exemple, là, moi, les cahiers d'art m'avaient offert le Eva Goya, donc, que j'aime beaucoup, bien sûr. Goya, donc, j'avais vu Goya quand j'étais plus jeune, je crois qu'il y avait une exposition au Louvre il y a très très longtemps et ça m'avait beaucoup touché. Donc quand j'ai vu le catalogue, j'aurais dit ah, c'est super, et ils ont été très gentils, ils m'ont offert. Voilà. Donc par exemple ce livre-là, je m'étais promis de le lire, mais je l'ai pas encore lu. C'est sur l'intelligence artificielle et je l'ai pas encore commencé. Donc,
mais
par exemple,
est-ce que ça, ce serait vous avez produit des œuvres, notamment autour de la figure d'Assa Traoré, qui ont été générées par intelligence artificielle. Donc ça peut être aussi
exactement,
quand vous bossez sur des projets.
Exactement, c'est quand je bosse sur des projets, c'est de trouver des choses, des références qui peuvent m'aider à réfléchir sur les sujets que je traite, quoi. Voilà, c'est souvent ça. Ça fonctionne un peu comme ça. Donc c'est d'une manière très empirique. En fait, je vais lire des bouquins. Par exemple, ça, c'est un bouquin que j'aime bien, qui était l'exposition de...
Ah oui, Révolution Xanakis.
Voilà, Xanakis, voilà, c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup la musique et j'aime bien... Un des bâtiments de Le Corbusier que j'aime le plus, hein, c'est le bâtiment... c'était quoi déjà à Lyon? Je ne me rappelle plus. Il y a le couvent de Lyon qui avait été fait par Xanakis. Et,
tu peux regarder?
Ouais.
C'est aussi quelqu'un qui dessine beaucoup,
exactement,
qui est mathématicien,
ouais. Ouais, mathématicien,
qui réfléchit à l'architecture,
exactement,
musicien.
Ouais. C'est ça.
C'est un artiste
et...
incroyable.
Et puis, c'est un très bon architecte aussi. Et voilà.
Ça, c'est dingue.
Oui, c'est très beau. C'est très beau. C'est visuel aussi, mais en même temps, c'est une pensée graphique. Enfin, ça, j'aime beaucoup. Voilà, voilà. Alors, donc, on va voir le nom tout de suite là.
Couvent de la Tourette.
Voilà,
c'est ça,
avec qui.
Ce qui est fou, c'est que la façade, c'est presque du rythme en fait. On dirait presque une partition. Quoi.
Bah, c'est ça. Exactement. Bah, c'est pensé comme ça. C'est vraiment pensé comme une partition. C'est de la musique. Et là, je trouve que là, il a, pour moi, dans ce bâtiment-là, il y a une musicalité qu'il n'y a pas obligatoirement dans les autres bâtiments. La Cité Radieuse, c'est qui a fait la Cité Radieuse?
Mais
Le Corbusier, voilà ça que je voulais vous dire.
Bah, vous l'avez dit tout à l'heure.
Bah, voilà, c'est Le Corbusier, vous voyez. Voilà, donc le bâtiment, par rapport à Le Corbusier qui fait des choses plutôt structurées où le rythme n'est pas obligatoirement. Enfin, il y a un rythme très différent, là au moins dans le.
C'est
voilà. Je trouve que là, il y a vraiment. Un rythme, des souffles différents dans l'architecture. En fait, je l'ai visité, ça m'avait beaucoup marqué. Et j'ai commencé un peu à écouter la musique de Xanakis aussi. Et oui, ça m'a. Voilà. Et ça me. Ouais. Il y a du souffle là-dedans, voilà. Donc ça me parle pas mal. Donc là, il n'y a pas tout. Hein. Là, c'est une partie de ma bibliothèque aussi à la maison. Donc là, vous avez une partie des livres que j'aime bien, mais pas tous, quoi. Voilà.
Qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont venus ici? C'est ceux qui ont plus rapport au travail?
C'est ceux qui ont plus rapport au travail. Ouais, c'est plus ça. Il y a beaucoup aussi dans mon travail de textes, mine de rien, en fait. Même si c'est pas. C'est quelque chose, moi, qui m'impressionne, l'écriture. Mais impressionne, non, pas vraiment, mais disons que c'est pas quelque chose dont je me sens à l'aise obligatoirement. Voilà.
Mais vous la pratiquez par contre?
Oh, pas du tout. Je pratique pas l'écriture du tout. Je pratique la musique, je pratique plein de choses, mais c'est le seul.
Vous prenez des notes?
Si, je prends des notes, j'ai plein de notes. J'ai que ça, des notes. J'écris constamment.
Bah donc du coup, vous pratiquez l'écriture?
Oui, mais je la pratique pas. Disons que c'est pas. On peut s'asseoir,
ouais,
hein, si vous voulez.
Ouais.
Ça, c'est la dernière exposition de Pierre Huyghe, j'avais acheté le catalogue de la dernière exposition. Et c'est un catalogue qui est bien parce qu'il y a quand même un peu tout son travail. Par rapport à l'exposition, il n'y a qu'une partie, pas mal de nouvelles pièces. Là, il y a pas mal de choses.
Il est
magnifique.
Vous faites aussi, vous faites des livres à partir de votre travail.
J'en ai fait pas mal. Ouais.
Et vous aimez bien cet objet-là?
J'aime bien, ouais. J'ai fait Périphérique qui est là-haut, là.
Ouais.
En fait, c'est beaucoup le rapport du texte à l'image aussi. Enfin, ça, c'est quelque chose qui.
Déjà, le format est hyper beau.
Ouais. J'avais pas mal de photos, en fait, des photos de recherche à la base, et en fait, ils m'ont dit, mais non, mais elles sont trop bien, viens, on en fait un catalogue, et donc on a récupéré un peu toutes les images de recherche, pour donner comme ça un peu d'images un peu qui n'étaient pas choisies ou qui faisaient pas vraiment partie de la série. Après, évidemment, il y a toute la série qui est au centre du livre. Ici, on peut ouvrir ici, comme ça, et on peut voir les images comme
dans
ça.
Dans un autre papier d'ailleurs.
Oui, exactement. Exactement.
Il y a un papier plus fin au début qui fait plus brouillon, prise de notes. Et,
exactement.
Et quand ça se déplie. Vous voulez dire un petit mot de cette série?
C'est une série de photos mises en scène en banlieue parisienne. J'ai travaillé entre 2004 jusqu'en 2008-2009. La dernière image, je crois qu'elle a été réalisée en 2009 de la série. Et puis après, j'ai fait autre chose. Et donc, c'est souvent une sorte de tableau photographique qui s'inspire à la fois d'images documentaires... ou d'une image de pub, et surtout de peinture classique, des interprétations de peinture classique, quoi. Donc voilà, en fait, c'était des compositions que je réalisais au flash.
Et on parlait de votre rapport au livre, et par exemple, le fait que cette série, elle existe, elle a beaucoup existé, sous plein de formats, elle a été énormément montrée. Mm-hmm. Mais le fait que ça existe en livre, pour vous, c'est important, par exemple, qu'elle ait une sorte de vie ultérieure sous ce format-là?
C'est bien. Moi, je suis content. Ça fait un bel objet. Est-ce que c'est important pour moi? Ce qui est bien, c'est que ça permet surtout d'archiver quelque chose. Ça permet aussi à beaucoup de gens de pouvoir y accéder. Voilà, même si ça reste quand même un prix conséquent pour un livre, quand même, ça permet d'avoir des images de bonne qualité avec une bonne dimension et ça permet aux gens de pouvoir accéder au travail plus facilement. Donc pour ça, je suis content que ça puisse circuler. Parce que d'habitude, voilà, les œuvres, les photographies, souvent, alors les images de recherche, non, elles sont même pas présentées. Et les photos elles-mêmes, elles sont soit dans des musées, soit achetées par des collectionneurs. Donc c'est vrai que un objet livre comme ça, ça permet au moins de partager un peu plus à un plus grand nombre. Et des gens qui peuvent pas avoir les moyens de s'acheter une photo, au moins ils peuvent avoir le livre et peuvent accéder au livre.
Et le côté moins bien, ce serait quoi? Parce que vous avez dit, oui, je suis content, mais...
Pour moi, il n'y a pas de côté moins bien. C'est juste que je ne vais pas penser à ce truc-là, de se dire que c'est important. Mmh. Je pense que... j'ai pas ce truc-là en me disant, oui, non, mais c'est trop important et tout. Je crois que, voilà, moi, mon travail, je le fais... Si ça marque des gens, tant mieux, je suis content, mais j'ai pas la prétention de dire que mon travail est important. Bizarrement, j'aurais pas dit ça. Enfin, je fais ce que je fais, c'est à la fois un métier, c'est à la fois aussi une manière de raconter des histoires, mes propres histoires, mais voilà, dire que c'est important que ce livre existe, je crois que c'est, ouais, je sais pas.
Bon, ici, il y a toujours une sorte de questionnaire de début, où on se demande quel est le rapport de nos invités à la lecture. Est-ce que vous vous souvenez où, quand, dans quel paysage, à côté de qui, vous avez appris à lire Mohamed Bourouissa?
Alors, la première fois que j'ai vraiment lu un livre... en fait, moi, j'ai un rapport très particulier, je pense que tout le monde a un rapport particulier, mais moi j'ai beaucoup d'angoisse. J'ai eu pendant très très longtemps des montées d'angoisse à la lecture. Donc j'avais pas du tout ce truc de lire un livre et d'être tranquille à lire un livre. Donc moi je suis arrivé à l'âge de 4-5 ans en France et je pense que le rapport à la langue, vu que je parlais arabe, algérien, le rapport à la langue française a été quand même quelque chose d'assez dur et puis l'apprentissage a été assez compliqué. Moi, j'avais pas de livre à la maison, et j'ai commencé peut-être à 10 ans je me rappelle, ma mère m'avait forcé via une amie, on habitait en fait à Courbevoie dans un petit appartement et en fait, elle lui avait dit ce serait bien que je le lise tous les jours et mon rapport à la lecture était très très longtemps assez violent et comme si c'était une obligation la lecture, quelque chose presque une torture, presque à la limite, quoi. Je me rappelle, je disais, la première fois que j'ai commencé à lire vraiment, c'était quelque chose de forcé. Et j'ai été obligé de lire 10 pages, je crois, tous les jours, tous les deux jours. Et je lisais ces 10 pages sans vraiment lire, comprendre ce que je disais. Et c'était assez difficile à décrire, à décrypter. J'ai pas eu ce truc où on voulait des histoires et tout. Non, pas du tout. J'ai eu un rapport à la lecture qui était purement institutionnel, donc par l'école. Et j'étais très mauvais en français et en orthographe, en grammaire, en syntaxe. Mais ça, c'était aussi lié. Ouais, j'avais pas mal de cours à l'époque, quand j'étais petit. Donc c'est vrai que mon rapport à la lecture, pour moi, il est pas du tout...
Du côté du plaisir au début, quoi.
Pas du tout du plaisir. Pour moi, la lecture, c'était pas un plaisir du tout. Franchement, j'ai trouvé presque même une forme d'angoisse, quoi.
Et en même temps, vous parlez de votre mère et d'une amie de votre mère qui disait ce serait bien qu'il lise.
Ouais, parce que j'étais complètement nul. J'étais tellement nul en orthographe, en grammaire et tout.
Que c'était comme la solution à ça, quoi,
ouais,
pour elle.
Ouais, c'était la solution. Fallait que je lise, que je me sois forcé à lire pour pouvoir avoir des meilleures notes et tout. Et donc c'était un peu ce truc-là. Après, je comprends ce désir de vouloir le faire, mais c'est vrai que moi, je l'ai vécu un peu comme quelque chose...
Comme un forçage, quoi.
Forcé à lire quelque chose sans... Finalement, y trouver une forme de plaisir. Ça a été très, très difficile. Et puis, j'ai pas lu jusqu'à très, très longtemps. J'ai pas lu... Après, bizarrement, le rap, la musique, ça a été aussi... je reconnaissais les textes d'Aura par cœur, des chansons et tout ça. Donc ça, il y avait ce rapport au texte qui était né par le rap.
Mais ce qui est fondamental, parce que j'allais vous poser deux questions. Par quoi passait votre rapport d'enfant à l'imaginaire à ce moment-là? Donc si c'était pas les livres, c'était autre chose. Et l'autre truc, c'était le rapport aux mots. Bah, par exemple, le rap ou la chanson, c'est un endroit fondamental pour avoir un... Et là, il y avait du plaisir, par contre.
Bah, du plaisir à écouter. Du plaisir à se souvenir. Par exemple, apprendre un poème, c'était une torture.
Enfin, mais apprendre un texte de rap, c'était pas une torture. Ou en tout cas, c'était ça.
Et c'était qui
comme groupe, par exemple?
À l'époque, c'était... Alors, il y en avait plein... Il y a des groupes de rap, mais il y avait aussi des chanteurs plus classiques comme Francis Cabrel. Ça me fait chier de vous dire ça parce que j'ai l'impression. Non, parce que en fait, ça fait tellement cliché, mais ça m'emmerde, mais je le dis quand même, c'est la réalité.
Mais ça fait pas la tête.
Mais si, c'est fait cliché.
Qu'est-ce qui fait cliché?
Bah, c'est de dire, ça fait presque à la limite comme La Fouine qui dit genre ouais, j'écoutais du Jacques Brel et d'un coup il mettait à écouter du Public Enemy. Mais c'est pas grave, c'est la réalité du truc.
C'est la réalité en même temps. Franchement, il y a combien de rappeurs qui ont écouté du Francis Cabrel et du Aznavour et qui passent leur temps à le raconter?
Alors moi, le Aznavour, j'ai jamais écouté pour le coup.
Ouais.
J'étais plus Claude Nougaro. Moi, j'étais un grand.
Immense poète, Nougaro.
Voilà. Donc, un rapport aux mots avec Claude Nougaro très fort. Évidemment, NTM, Aya. Moi, je suis de toute cette génération avec tous ces groupes-là. Donc, c'est vrai que le premier morceau d'Authentique d'NTM, c'était un morceau que je connaissais par cœur. Maintenant, j'ai même un petit truc, mais je veux même pas. Il ne faut pas me demander de le faire. C'est horrible.
Les gens qui disent ça, ils ont envie qu'on leur demande.
Non, pas du tout. Parce que je sais que ça, c'est la première idée qui pourrait venir en tête. Mais voilà, il y a ça. Il y avait effectivement Les Nuits Blanches de Nougaro, dont je trouve le texte est magnifique. Cécile Maffi. Il y a des textes incroyables que je trouve que chez Nougaro qui me parlent encore. Ça, c'était vraiment le passage. Et puis, toujours très mauvais en français et tout ça. Et puis un jour, en fait, il s'est passé quelque chose par rapport à la lecture. Moi, j'étais à l'époque, j'étais de Courbevoie, on avait fait... J'ai passé un concours de dessinateur maquettiste et donc j'étais à l'école à Saint-Germain-des-Prés. On avait une annexe de l'école parce que c'était une école technique. Et on
tout
a eu un professeur...
Tout ce temps-là sans lire. Bah, c'est-à-dire que là, on vous retrouve quoi à une vingtaine d'années? Non,
j'avais 17-18.
D'accord.
17-18, ouais, je crois. 17 ans, je crois. Et ouais, tout ça, c'est vraiment sans lire. Hein. Je lis pas.
Là, mais par contre, quand même, parce que quand même.
Je vois des films. En fait, j'ai, pour vous dire à quel point j'avais un problème avec la lecture, c'est que j'achetais des BD de comics et je les achetais juste uniquement pour les dessins. Donc moi, le dessin, ça a été vraiment mon premier rapport au monde. Donc le dessin, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a permis de communiquer déjà avec les autres et puis en même temps d'avoir un rapport. Avec l'image, avec le trait, très fort. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, j'ai fait dessinateur maquettiste. C'est parce que je dessinais bien. Et j'avais eu des professeurs à l'époque qui m'avaient accompagné, qui croyaient beaucoup en mon savoir-faire. Et je dessinais beaucoup. En fait, je faisais même pratiquement pas mes devoirs. Je faisais que dessiner. En fait, j'avais des techniques pour cacher les livres. Enfin, je pense qu'on l'a tous... Enfin, je sais pas si on l'a tous fait, mais quand les parents passent dans la chambre et t'as les livres comme ça, et moi, je mettais les livres et je dessinais. Et dès qu'ils arrivaient, je mettais le livre d'histoire par-dessus mes dessins. Et après, quand ils repartaient, je redessinais. J'espère que ma mère m'en voudra pas de ça, mais... Et puis j'avais un beau-père aussi qui me montrait énormément de films, donc beaucoup d'images, beaucoup de BD, beaucoup de dessins et beaucoup de films.
Et donc on vous retrouve 16-17 ans, ouais. Ok, Saint-Germain-des-Prés, annexe de votre école,
ouais.
Et il se passe quoi?
Il se passe que je rencontre on a un prof d'histoire à l'époque qui s'appelle Monsieur Saint-Michel.
À Saint-Germain-des-Prés.
Ouais. Quelqu'un qui a été vraiment en fait le déclencheur un peu de mon rapport à la lecture, parce qu'il était à l'écoute. J'avais envie de me dire genre tiens, il nous avait dit ben la semaine prochaine on a un devoir à faire sur un livre, donc c'était Paris brûle-t-il, et il dit bon ben voilà, il faudrait lire tout le livre et tout. Et je me rappelle très bien, la plupart des, enfin c'est un livre qui est quand même assez gros, je crois qu'il faisait 500-600 pages, je sais plus combien il fait de pages. Je sais pas pourquoi, j'ai fait pratiquement une nuit blanche où j'ai fini le livre en une seule nuit, quoi. Et bizarrement,
plus d'angoisse.
Toujours quand même un peu, c'est toujours là, mais moi, aujourd'hui, moins, hein, je peux lire plus tranquillement. Par exemple, je lis des histoires à mon livre, si, à mon fils, si j'avais lire des histoires en étant angoissé, ça serait horrible. Donc, non, là, je l'ai perdu, mais c'est vrai que c'est là, à l'époque, c'était encore là, mais moins, quoi. Et oui, je lis ce livre, je sais pas, j'ai complètement plongé dedans, ça m'a fasciné, et j'ai passé, je crois, je sais plus, j'ai commencé genre à 10h, j'ai commencé à 10h, 4-5h du matin, j'étais encore dedans, en train de le finir, en plus parce que j'avais gavé l'interro, mais j'avais vraiment envie de le finir en fait, parce que j'étais complètement dedans quoi. Donc ouais, là, à partir de là, ouais, j'ai eu le rapport à la lecture a complètement changé. Alors bizarrement, pour quelqu'un qui lit pas beaucoup, en fait, j'ai fait pas mal d'études derrière, où j'ai commencé à lire pas mal de livres d'histoire, sur l'histoire de l'art aussi, et puis aussi de la philosophie. La philosophie, ça a été vraiment le truc... Moi, les romans, j'ai eu beaucoup de mal. J'arrivais pas à accrocher aux histoires et tout ça, c'était pas le truc qui me... Parce qu'il y avait les films, en fait. Bizarrement, il y avait les films. On parle de fiction. Les films, c'était genre... Pour moi, c'est le monde de la fiction. Et c'est vrai que les livres, pour moi, c'était le monde de la pensée des idées. Ce qui n'est pas vrai en soi, parce que dans un film, il y a des idées. Hein. Mais il y a de la pensée. Mais oui, voilà. Et donc, c'est vrai que, bizarrement, je me suis un peu plus rapproché de la philosophie. Même de la psychanalyse.
Vous avez par exemple, qui vous a intéressé?
Le premier livre, là, je vous l'ai ramené. Moi, c'était Surveiller et punir, qui a été un peu un bouleversement, quoi. Ça a été vraiment le livre qui m'a fait prendre conscience beaucoup de de comprendre un peu comment la société fonctionne aussi. Et puis après, j'ai lu aussi des classiques, finalement, La République de Platon. Donc je me suis coltiné ce genre de bouquin. Je ne sais pas pourquoi, en fait. J'avais plus de facilité à lire de la philo qu'à lire du roman. Je ne comprenais pas les romans. Je n'arrivais pas à comprendre. Mais la philo, ça va. Je trouvais que c'était abordable, genre je la comprenais bien quoi.
Aujourd'hui par exemple, il y a une partie de votre travail qui réfléchit beaucoup à l'enfermement, ouais, à l'incarcération, et surveiller et punir. À l'époque, c'était déjà des questions qui vous travaillaient?
Bien sûr, ouais, c'était déjà des choses qui me travaillaient, parce que pour des raisons plus personnelles, mais oui, j'essayais de comprendre effectivement où j'étais en fait. Où étaient certains potes, ou certains gens qui m'entouraient, et de comprendre c'est quoi toute cette mécanique dans laquelle je pouvais être, essayer de comprendre ça, de comprendre ce que c'était que le racisme aussi. Après, effectivement, c'était pas si clair à l'époque, on le comprenait pas si facilement. Il y avait comme ça des grands idéaux, mais dans le fond profond des choses, pour décortiquer.
Mais c'était vos questions. Pas... Vous les formuliez comme ça, vous vous disiez, ok, moi je vis dans quel monde?
En fait,
quoi,
moi
la...
j'étais avec des. J'étais à l'époque, moi j'étais dans un groupe de graffeurs qui existe toujours. Avec eux, on avait, ouais. Évidemment, c'est un peu des trucs un peu bateaux, un peu généralistes, mais sur le système, de comment le système fonctionne, qu'on exclut du système. C'est des idées un peu comme ça. Très,
Mais parce que concrètement, quoi, vous alliez graffer le soir et que vous vous faisiez ramasser par les flics, et du coup, vous vous disiez, ok, quelles sont les camps, quelles sont les forces en présence?
Exactement. Je pense qu'il y a un peu ça, Et puis, effectivement, on était tous, pour certains, enfants d'immigrés, d'autres deuxième génération, d'autres métis et tout. Effectivement, il y avait ce racisme qui était là et qu'effectivement, qu'on ressentait, tu vois, et qu'on n'arrivait pas. C'est le plus compliqué, je pense, dans ces situations, c'est d'arriver à mettre des mots. Et effectivement, le rap, la musique, ça aide aussi à mettre des mots sur des choses. Les textes de rap aussi, c'est pas mal, ça permet. Mais ça reste quand même quelque chose de très généraliste. Mais aussi, on se construisait notre expérience, on pensait au monde. Même si on allait graffer, on réfléchissait dans lequel système on était.
Je voudrais montrer que la manière dont on punit est actuellement liée très étroitement à une certaine forme de pouvoir et de contrôle politique qu'on trouve dans les sociétés capitalistes et aussi dans les sociétés socialistes. Et c'est ce qui fait que les gens ne supportent pas, ne comprennent pas, n'adhèrent pas profondément à ce système de punition. Il me semble qu'il existe tout aussi fondamental que les relations économiques ou les relations discursives, des relations de pouvoir, qui trament absolument notre existence. Quand on fait l'amour, eh bien, on met en jeu des relations de pouvoir. Ne pas tenir compte de ces relations de pouvoir, les ignorer, les laisser jouer à l'état sauvage, ou les laisser, au contraire, confisquer par un pouvoir étatique ou un pouvoir de classe, c'est ça, je crois, qu'il faut essayer d'éviter. En tout cas, c'est contre cela qu'il faut polémiquer. faire apparaître les relations de pouvoir, c'est essayer, dans mon esprit en tout cas, de les remettre en quelque sorte entre les mains de ceux qui les exercent.
Bah, d'ailleurs, une partie du mouvement hip-hop, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France, ça a été une porte d'entrée de penser ces conditions-là, de penser ces parcours de vie, de penser ces rapports de force-là. Donc, c'est assez lié finalement avec l'accessibilité à cette.
Non, mais voilà, c'était effectivement, comme tu dis là très bien, c'est réfléchir à sa propre condition, quoi. Je pense que c'était ça dont on avait envie déjà de parler entre nous, on parlait pas que de ça bien sûr, mais c'était
comment
des choses
de surveiller et punir à 2h du mat sur le RER.
Ça je le lisais dans mon coin, mais
en le disant, vous le
disiez? Je le disais ce que j'avais, ouais bien sûr je le disais, mais je sais pas aller, enfin tu t'étales pas là-dessus, tu vis des expériences humaines avant tout avec tes amis, et puis on parlait d'autres trucs, on faisait la fête, on parlait de quel graffeur avait tout déchiré, on parlait même de, alors par exemple, il y a un truc, le rapport à la lettre, par rapport au signe. Parce que qu'est-ce que c'est que le graffiti? Le graffiti, c'est qu'écrire son nom sur des murs. On crée des signes, on écrit des lettres. Et ces lettres-là, elles ont un certain style, elles ont une calligraphie. Et cette calligraphie,
une puissance de représentation.
Et aussi,
c'est-à-dire qu'inscrire son nom sur un mur ou sur un train, non seulement il y a une puissance de calligraphie, mais on dit que ça représente, au sens fort du terme, qui est que ça projette un nom dans la ville. Souvent, en plus, par des corps qui, par ailleurs, sont silenciés, invisibilisés, etc. etc. Donc, c'est de la calligraphie qui a une puissance d'affichage très forte.
Oui, mais c'est une affirmation. C'est une affirmation de soi. C'est aussi se représenter. C'est aussi faire partie d'un collectif. C'est aussi faire groupe aussi. C'est aussi un rapport d'amitié avec les autres. D'avoir un nom, d'avoir une sorte de nom commun, quelque chose qui nous rassemble. Et et je crois que voilà, le rapport aussi à l'écriture est aussi lié au tag, à le geste.
En pensant à ça, moi je revois aussi, et c'est encore le cas aujourd'hui, quand on parle de lecture là, Mohamed Bourouissa, mais se promener dans la ville et lire le nom de crew, lire le nom de graffeuse ou de graffeur particulier, c'est bien la lecture d'un espace, c'est bien la lecture d'un espace visuel que de voir arriver des noms. C'est aussi une très grande joie, par exemple, de prendre un train, d'aller dans tel endroit et de voir surgir un nom, un nom qu'on aime, c'est quelque chose de très fort
aussi,
et qu'à avoir, il me semble, vraiment très profondément avec l'écriture et la lecture.
Visions and prayers, but you don't believe in what's really there. You're a young man on the dance floor, a young man in a young man's world.
France Culture, le Book Club, dans la bibliothèque de Mohamed Bourouissa, Marie Richeux.
On vous a demandé
de
choisir des textes pour nous,
okay,
pour les partager. Donc vous avez fait plusieurs propositions.
Ouais.
Avec un ordre ou peu importe.
Franchement, il n'y a pas d'ordre en particulier. En fait, je me suis dit, je vais prendre des livres qui m'ont marqué, qui m'ont ému, qui me parle aujourd'hui, qui ont un écho aussi par rapport à la pratique que j'ai. Donc c'est vraiment aléatoire. Je l'ai fait par instinct.
Ok.
Voilà.
Il y a un livre de John Cage qui s'appelle Confession d'un compositeur. On commence par là.
Ouais,
il est où?
Bah, il doit être quelque part là. Je vais le chercher. Je crois qu'il
mais
doit
sinon,
être.
Je l'ai.
Ah, si vous l'avez, c'est bien. Hein. Mais normalement, il doit être quelque part. Vous voyez comme le. Ouais, après j'ai dévoré Bukowski par exemple. Bukowski, j'aimais beaucoup. J'aime beaucoup son insolence.
À 20 ans, du coup, dans cette.
Non, plus tard, Bukowski, ça a été plutôt vers 30, quoi. Et j'ai tous lu, quoi. J'étais complètement. J'ai eu ce même effet avec Romer. Romer aussi, j'ai tout dévoré ensuite après de Romer.
Il est là.
Et moi, je pense que ce qui m'a plu chez Bukowski à l'époque, bah voilà, pour le coup, roman.
Ouais.
Pour le coup. Donc ça a été vraiment genre mon entrée dans le roman avec Bukowski. Et c'est vrai que quand j'ai lu, j'ai retrouvé des choses qui me parlaient. C'est-à-dire que l'écriture, la simplicité de l'écriture, et en même temps quelque chose de très profond où il va chercher, fouiller dans l'expérience personnelle, tout en étant cru. Bah par exemple, ça me parlait beaucoup plus que
tout ce qu'on
m'a mis dans les mains, quoi. Enfin, et toute cette expérience de vie un peu brutale aussi, vers du graffiti ou même de la vie perso, je retrouvais des choses qui me parlaient vraiment. Et ça, voilà, pour moi, ça a été. Bukowski, ça a été. C'est dommage, j'ai pas pris ça aussi, mais pour moi, ça a été vraiment. Ouais, ça a été un peu salvateur aussi, son écriture. Ça m'a un peu libéré aussi au niveau de l'écriture et sa façon de. Pas de simplifier, parce que pour moi, c'est pas si simple que ça. Mais voilà, j'avais cette facilité, ce truc très direct, voilà. Que je trouve. Qui m'a beaucoup plu. Et donc, je les ai tous dévorés après. Voilà.
Vous avez choisi donc un extrait d'un livre de John Cage qui s'appelle Confession d'un compositeur, qui est paru aux éditions Alia en 2013, mais c'était une conférence qui était donnée par John Cage à New York en 1948.
C'est ça.
Et
je sais plus quel passage j'ai pris.
Ben, page 19.
Dites-moi que j'ai pris quelle page 19, j'ai pris quoi?
C'est une traduction en anglais par Ellis Patton. Vous voulez bien nous lire?
Oh là là, mais je lis trop mal. Hein. Mais bon, je peux essayer, hein. Vous voulez me faire comme ma mère faisait quand j'étais petit?
Non, mais je peux lire si jamais ça.
Ouais, je préfère.
Oui.
Je préfère.
Ok, allez, j'improvise. Dans ce contexte, le terme percussion ne renvoie pas uniquement au son obtenu par le fait de frapper ou de heurter quelque chose. Il est employé dans une acception plus large. Il se réfère au son en général, y compris le bruit. Par opposition à des sonorités mélodieuses ou considérées comme telles. De ce fait, tout comme on peut dire de la musique moderne en général qu'elle retrace l'histoire de la libération de la dissonance, et vous soulignez, Mohamed Bourouissa, de même, cette nouvelle musique participe de la tentative de libérer tout son audible du carcan des préjugés musicaux. Un son isolé n'étant lui-même ni musical, ni non musical. C'est simplement un son. Et peu importe sa nature. Il peut devenir musical en trouvant sa place dans un morceau de musique. Avec cette façon de voir, la définition de la musique que m'avait inculquée ma tante Phoebe était nécessairement remise en cause. D'après elle, la musique se composait de mélodies, d'harmonies et de rythmes. Vous me dites quand je m'arrête, hein. Pour moi,
vous continuez, je trouve ça super bien.
Elle était désormais l'organisation du son, plus précisément l'organisation par n'importe quel moyen, de n'importe quel son. Incroyable.
Ah ouais, il est bien passage. J'avais zappé que j'avais choisi ça.
L'organisation par n'importe quel moyen de n'importe quel son.
Ouais. Et ça, c'est parce que... alors moi, quand je commence à lire John Cage, au départ, je commence la musique sans vraiment lire John Cage. J'entends parler de John Cage pendant très longtemps et tout. Je trouve ce petit livre là, je me dis, ah tiens, Confession d'un compositeur, j'en mets et tout. Je vais essayer de voir ce qu'il raconte quand même, parce que c'est quand même John Cage... C'est l'histoire de la musique. Et voilà, et quand je lis ces mots-là, et quand je vous entends le lire, bah, pour moi, ça résonne vachement aussi avec une pratique que j'ai du son et de la musique. Une des premières pièces, par exemple, souvent, comme je vous disais, moi, les livres, ça va me faire réfléchir à ce que j'ai pu faire ou ce que je vais faire dans mon propre travail. Et là, ça me fait, quand je lis ça, pour moi, j'ai comme des intuitions. Mmh. Et grâce à des compositeurs, et dans ce texte-là, John Cage, ça fait comprendre, conscientiser ce qu'est ma propre pratique de la musique aujourd'hui. Mmh. Et ce que j'essaye de faire, j'ai pas la prétention d'être un compositeur, mais je fais du son et à partir du moment où je...
Mais ça vous conforte dans vos pistes, du coup ?
Exactement, c'est ça. Et par exemple, une des premières pièces sonores que j'ai réalisées, c'était une pièce juste après une pièce qui s'appelle Brutal Family Rules, c'était la deuxième pièce que j'ai réalisée, elle s'appelait Ara. Ara, en fait, c'est un cri des guetteurs à Marseille, en fait, dans certains quartiers, avant que la police arrive, il y a des gens qui crient Ara. Et ce son-là,
peut-être
c'est un signal.
Pour les gens que les guetteurs dans le cadre d'un trafic de drogue.
Dans les guetteurs dans le cadre d'un trafic de drogue, merci. Désolé, il faut
être clair. Non, mais du coup, il faut dire, il y a des gens qui ne savent pas ce que c'est que des guetteurs.
C'est vrai, désolé. Et donc, ce son, je l'ai isolé. J'ai travaillé avec des gens donc, qui avaient fait ce travail pendant un temps. Et je suis parti en studio et en fait, j'ai extrait ce son pour en faire comme un signal, comme un cri, comme un bruit, mais qu'en même temps, qui d'un coup devenait comme une chorale, parce qu'en fait, je les ai recomposés, mélangés les uns aux autres, et ça crée une sorte de sonorité, une musicalité du cri. Bah pour moi, voilà, d'un coup, je cherche un son, un bruit comme ça, qui à la base qui est très codifié, qui est très lié à un contexte, et d'un coup, de le retirer et d'en faire un élément musical et de faire une composition musicale à partir de ces cris. Pour moi, là, le texte décrit ça. Il me permet...
N'importe quel son, n'importe quel moyen, n'importe quel son.
Exactement. Mais en même temps, je trouve que dans la manière dont il dit, il y a presque une poésie dans la manière dont c'est dit. C'est pas juste...
Théorique.
Pour moi, il y a une vraie beauté dans la manière de le dire. Et il y a une vraie philosophie là-dedans. Il y a presque, à la limite, pour moi, ça me fait penser à Rumi, par exemple, dans la manière dont il raconte son rapport au son et au bruit.
Un son isolé n'étant lui-même ni musical ni non musical, c'est simplement un son.
Voilà, ça devient qu'un signe. Il le décharge complètement de quoi on l'a assigné. Et je trouve ça vraiment super beau. Et donc voilà, donc dans ma pratique, ça, c'est des choses qui, moi, me permettent de comprendre, de faire avancer aussi ma pratique personnelle dans les différents types de langage.
Si je vais vers un autre... Je me dis, si on essaye, je sais pas, je fais une hypothèse, si on essaye de rester dans quelque chose qui pourrait renseigner votre pratique,
ouais.
Est-ce que si on va vers Gustave Le Bon,
ouais.
Avec un texte de la fin du 19e, ouais. Psychologie des foules,
ouais.
Comme ça fait aussi partie des choses que vous auscultez,
ouais.
Je suis préposée à la lecture, c'est toujours moi qui lis.
Ouais.
Ok. Donc ouais. C'est où alors?
Mais non, mais comme ça, je vous fais subir ce qu'on m'a fait subir quand j'étais petit.
Allez, franchement, je prends. Donc c'est un texte qui part en 1895. Je le lis et on le commente.
Ouais.
Donc vous avez été chercher quelque chose dans le chapitre 2 qui s'appelle « Facteurs immédiats des opinions des foules » et le paragraphe 1 qui s'appelle « Les images, les mots et les formules ». La puissance des mots est liée aux images qu'ils évoquent et est tout à fait indépendante de leur signification réelle. Ceux dont le sens est le plus mal défini possèdent parfois le plus d'action, tels par exemple les termes démocratie, socialisme, égalité, liberté, etc., dont le sens est si vague que de gros volumes ne suffisent pas à le préciser. Et pourtant, une puissance vraiment magique s'attache à leurs brèves syllabes, comme si elles contenaient la solution de tous les problèmes. Ils synthétisent des aspirations inconscientes, variées, et l'espoir de leur réalisation. La raison et les arguments ne sauraient pas lutter contre certains mots et certaines formules. On les prononce avec recueillement devant les foules, et tout de suite, les visages deviennent respectueux et les fronts s'inclinent. Ça vous fait rire, j'adore.
Ouais, moi ça me fait rire.
Qu'est-ce qui vous fait rire? Parce que c'est malin.
Bah, il écrit ça, en fait, pas pour les gens, pas pour le peuple, finalement. Il l'écrit pour les dirigeants. Et il explique comment ça marche. Comment, en fait, une image produite, un mot, un son, elle peut changer une opinion. Et c'est intéressant. C'est-à-dire que comment on fait pour maîtriser une foule? Comment on fait pour la contenir? Comment on fait pour la faire croire? Et je trouve qu'il y a cette idée de manipulation, il y a ce jeu de la manipulation. Et je pense qu'on vit aujourd'hui, son livre, il est tellement, pour moi, il est tellement présent, tellement, en fait, il est hors du temps, ce livre-là, et qui permet, en fait, de comprendre et décortiquer là, notre rapport aux images, notre rapport au discours, qui est des discours politiques, par exemple.
Oui, des mots très performatifs, quoi. Des mots voilà. Qui font incliner le front.
Voilà, exactement. Et moi, c'est vraiment un rapport... Quand on parle de la lecture et cette angoisse, je pense qu'il y a un rapport à la lecture, un rapport aussi de pouvoir très présent dans le. On en parlera après avec. J'avais pris un autre truc, mais je trouve que là-dedans, dans ce texte-là, tout d'un coup, on comprend que le mot, il reste qu'un mot, il reste qu'un signe, mais qu'en fait, il est complètement. D'un coup, on lui projette du sens et qu'il est intéressant de comprendre quel sens on lui projette dans ce mot-là. Pour savoir exactement à quoi on est confronté.
Ça me fait penser à décoloniser l'esprit
exactement, ouais.
Qui est traduit de l'anglais kényan par Sylvain Prudhomme, ouais. Et qui est aussi une suggestion que vous nous avez faite, Mohamed Bourouissa. Mm-hmm. C'est un texte qui est beaucoup plus contemporain parce qu'il est paru en 2011. Décoloniser l'esprit.
Alors ça, c'est.
Il est aussi question de la langue et des mots.
Alors là, c'était drôle parce que. Alors pour le coup, c'est ça qui est beau avec les textes, les livres. C'est Margot Nguyen qui travaille avec moi, qui est libre pour le coup, c'est une vraie littéraire. Et elle avait ce livre en me disant, bon, écoute, je sais pas trop, je lui dis, bon, bah, vas-y, passe, je vais regarder ce qu'il y a dedans. Et voilà, j'y ai trouvé énormément de choses et qui m'ont permis de comprendre quel rapport, par exemple, j'entretiens aussi avec la langue, alors pour le coup, la langue française. Mmh. Quel rapport on a, en fait, cette grille de lecture qu'on a.
Vous lisez l'arabe ?
Alors non, c'est ça qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de gens en fait immigrés qui lisent pas l'arabe énormément. Et ça, pour moi, c'est dommage. Je parle la langue algérienne, mais je la lis pas. Donc ça, c'est quelque chose sur quelque chose. Je me dis ah tiens, je suis en train de louper peut-être quelque chose. Et mon seul prisme finalement, c'est la langue française.
Qui n'a pas n'importe quelle histoire avec la langue algérienne par ailleurs.
Exactement. Et ça, pour moi, je pense que c'est quelque chose à prendre en conscience, en fait. Et ce livre-là, là où j'arrivais pas à mettre les mots, ce que je vous disais tout à l'heure, pour moi, les livres me permettent de mettre des mots là où j'ai des intuitions, où j'arrive pas à poser certains mots, certaines choses.
Je lis ?
Ouais. Je l'ai pris, il est
doigt. Si, il est là, il est.
Ah, bah voilà.
Alors, page 60. C'était ça ou pas que vous vouliez lire ?
Ok.
Ouais, on n'a qu'à reprendre
ouais,
ici.
Oui.
Parce que cette phrase, je sais pas ce que c'est du coup, franchement. Je pense que c'est une erreur de notre part.
Oui, bah, c'est peut-être moi, hein. Vous savez, des fois ça arrive.
Ok. Oui. J'avance, je vois où je m'arrête. Mm-hmm. Peut-être je peux prendre à Je crois qu'écrire en kikuyu.
Ouais.
C'est pas mal. Comme ça parle bien. De sa propre langue.
Exactement.
Parce qu'on parle d'un homme qui est kényan.
Exactement.
Voilà. Je crois qu'écrire en kikuyu, langue kényane, langue africaine, est une façon de contribuer, à ma modeste échelle, au combat des peuples kényans et africains contre l'impérialisme. Dans les écoles et les universités, nos langues locales, celles des nombreuses nations qui forment le Kenya, étaient associées à l'arriération et au sous-développement. Nous qui allâmes à l'école, apprîmes avec le temps à mépriser ces langues qui nous valaient tous les jours humiliation et châtiment. Je ne veux pas que les enfants du Kenya d'aujourd'hui héritent de cette tradition impérialiste qui consiste à mépriser les formes de communication développées par leur communauté au long de l'histoire. Je veux qu'ils s'affranchissent de l'aliénation coloniale. L'aliénation coloniale prend deux formes indissociablement liées. L'une qui consiste à se détacher volontairement ou involontairement de la réalité environnante. L'autre qui consiste à s'identifier volontairement ou involontairement à des éléments parfaitement étrangers à cette réalité. L'aliénation coloniale se met en place dès que la langue de la conceptualisation, de la pensée, de l'éducation scolaire, du développement intellectuel, se trouve dissociée de la langue des échanges domestiques quotidiens. Elle revient à séparer l'esprit du corps et à leur assigner deux sphères séparées. À une échelle plus globale, elle aboutit à une société d'esprit sans corps, et de corps sans esprit. C'est ouf. Ça me fait
des
petits frissons.
Ah ouais, c'est dingue.
Ouais, ça me fait des petits frissons.
Ah oui, oui. Ça me rappelle beaucoup de choses, en fait. Quand ce texte-là, ça m'émeut beaucoup parce que il y a plein de choses. Il parle de beaucoup de choses, mine de rien, c'est court, mais c'est très dense dans ce qu'il raconte. La première chose qui m'est venue en tête, c'est ce rapport au mépris de la langue. C'est-à-dire, par exemple, le rapport au mépris de la langue arabe. Par exemple, ça, c'est lié aussi à l'aliénation coloniale. Ça, c'est vraiment né de ça. C'est-à-dire que moi, je vais parler arabe, ça reste encore, ou très peu vont te dire « Ah, mais non, mais moi, je parle pas. Ah, mais je lis pas. » Mais on va dire « Bah non, mais c'est un pur hasard. » C'est genre parce que ils ont pas pu, les parents ont pas transmis. Mais je pense qu'il y a vraiment une manière aussi de dénigrement de sa propre langue intériorisée. Et ça, pour moi, c'était un des fondements. J'ai vécu pendant très longtemps ce mépris, enfin, ce mépris même identitaire, mais aussi ce mépris de la langue, de ne pas connaître cette langue, de sa richesse, finalement.
Mais il y a aussi quelque chose que je trouve hyper beau dans ce qu'il dit, c'est la violence coloniale qui passe par une dissociation des échanges domestiques et de la langue de l'institution.
Et ça, c'est par exemple, c'est très lié. Alors ça c'est quelque chose que j'ai re-regardé ensuite, par exemple, quelqu'un comme Antoine Porot, qui était psychiatre en Algérie, qui avait monté l'hôpital Frantz Fanon, qui s'appelait Joinville à l'époque. Finalement, dans sa psychiatrie racialiste, c'est les racines de l'idéologie racialiste, il avait complètement dissocié, il disait que les indigènes n'avaient pas la possibilité d'aller dans le monde des idées. Finalement, c'est aussi un rapport à la langue. Et Fanon, qu'est-ce qui révolutionne là-dedans? C'est qu'il commence à s'intéresser à l'ethnopsychiatrie, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à la culture, mais la culture, elle passe aussi par la langue. Pour lui, à l'époque, elle disait non, c'est pas ça, c'est la langue arabe, hein, elle leur permet pas d'avoir le monde des idées. Le monde des idées, c'est la langue, c'est le langage, c'est le texte, c'est les mots latins, c'est le français. Vous voyez? Et donc ça crée aussi des sortes de dissociations. Ça, c'est des choses que je trouve hyper intéressantes et qui sont même, nous, c'est comme si t'étais prisonnier d'une langue. Et donc, finalement, en apprendre une autre et réapprendre la langue, par exemple, maternelle, c'est toujours intéressant de la connaître parce que ça te permet, toi, de switcher d'une à une autre. Mais la dévalorisation de cette langue aussi, elle pose problème. Parce que finalement, les gens ne se l'approprient pas parce qu'elle est dévalorisée, parce qu'ils utilisent une langue qui est l'ancienne langue coloniale. Je dis pas qu'il faut pas apprendre le français. Le français est une belle langue, c'est pas le problème. Je dis simplement que prendre ça en conscience, avoir conscience de tout ça, c'est hyper important. C'est-à-dire que même si je parle, même si j'écris et que j'écris en français, ça reste quand même, elle a une histoire, elle raconte quelque chose, et voilà. Et donc, il faut en avoir conscience quand on la lit. Voilà.
Est-ce qu'on a le temps pour un dernier texte? Ok, alors, on commence par Belle Hooks et on verra ce qu'il reste comme temps pour Etal Adnan. Alors là, c'est un ouvrage important dans la pensée de Bell Hooks qui s'appelle « À propos d'amour », qui a été publié par les éditions Divergence qui font un travail important autour de l'œuvre de Bell Hooks.
Bell Hooks, ça m'a fait le même effet que la première fois que j'ai lu « Surveiller et punir » de Foucault. Ça a été vraiment genre un choc. Et ça, il faut que je remercie une amie, et je lui fais une petite dédicace parce que quand même, à chaque fois, je ne l'ai jamais remercié de ça. C'est Gaëlle Swann qui m'avait introduit le travail de Bell Hooks et qui m'a permis de m'intéresser à ces textes. Et c'est vrai que aujourd'hui, là, je lis un autre livre aussi de Bell Hooks qui est juste là, que je commence en ce moment à lire et dont c'est De la marge au centre, un très beau livre sur la théorie féministe. Je vais pas faire le féministe, c'est pas le but, c'est parce que ça me fait comprendre aussi, moi, ma propre position d'homme. Et ça m'a même fait comprendre des rapports même profonds, même familiaux, pour le coup.
Eh ben, je vais le lire.
Ouais.
L'extrait que vous avez choisi, Mohamed Bourouissa, la traduction, elle est signée d'Alex Taillard et Florence Zeng. Pareil, je découvre. Les hommes que j'ai aimés ont toujours menti pour éviter de se disputer ou d'assumer la responsabilité d'un comportement inapproprié. Dans son livre révolutionnaire, The Mermaid and the Minotaur, Sexual Arrangement and Human Malaise, Dorothy Dinnerstein explique que lorsqu'un petit garçon apprend que sa puissante mère qui contrôle sa vie n'a en réalité aucun pouvoir au sein du patriarcat, cela le perturbe et le met en rage. Le mensonge est alors l'un des moyens stratégiques qu'il emploie pour faire n'importe quoi et rendre sa mère impuissante. Le mensonge lui permet de manipuler sa mère et de révéler son manque de pouvoir. Il se sent ainsi plus puissant. Les hommes apprennent à mentir pour devenir plus puissants. Les femmes font de même, mais elles mentent aussi pour feindre l'impuissance. Dans son ouvrage, Harriet Lerner explique que le patriarcat soutient la tromperie en encourageant les femmes à se présenter aux hommes sous un faux jour et vice-versa. Dans son livre intitulé « 100 Lies Men Tell Women », Dori Hollander confirme que si les femmes mentent comme les hommes, ces données et les conclusions d'autres chercheurs ou chercheuses indiquent que les hommes ont tendance à mentir davantage et avec des conséquences plus dévastatrices. Beaucoup de jeunes hommes ont goûté pour la première fois au pouvoir en s'en tirant bien lorsqu'ils mentent à des adultes plus puissantes qu'eux. Beaucoup d'hommes m'ont confié qu'il leur était difficile de dire la vérité lorsqu'ils voyaient bien que cela risquait de blesser un être cher. Il est à noter que pour tous ces garçons menteurs, qui se comportent ainsi pour éviter de blesser leur mère ou d'autres personnes, le mensonge se fait si habituel qu'il leur devient difficile de le distinguer de la vérité. Ce comportement se poursuit à l'âge adulte.
J'ai ramené que des livres, gentils. J'ai pris que des trucs, que des bons comme ça. J'ai décidé de faire une émission.
Avec que des
bombes
dedans.
Ouais, que... Non, mais arrêtez de dire ça. Non, dites pas ça. Je me fais... Non, c'est pas bon. Que des trucs, genre bon. Ouais. Mais oui, c'est. J'avoue. Ça me parle, le mensonge, oui. Alors, est-ce que je mens encore? J'essaie en tout cas de moins mentir. Parce que, est-ce qu'on maîtrise parfois? Des fois, je pense que même c'est inconscient. Et ce rapport au mensonge, moi, je pense qu'il dit beaucoup de nos rapports, pas uniquement avec les femmes, mais aussi de nos rapports avec les hommes, nos rapports avec le pouvoir, pour essayer de s'en sortir. Et je pense que, en tant que, pour le coup, en tant qu'homme, j'ai utilisé aussi beaucoup le mensonge. Ça me fait aussi comprendre, conscientiser, comme je vous disais par rapport à décoloniser l'esprit, conscientiser tous ces mécanismes qui sont là, qui sont présents, alors qui sont de l'ordre plus large, d'un point de vue sociétal, mais aussi de l'ordre de l'intime. Mais aussi le mensonge familial, finalement. Le mensonge de certaines femmes pour protéger d'autres, pour aussi pour se protéger elles-mêmes aussi. Et le mensonge, voilà, c'est quelque chose qui est très présent. Et il est aussi présent dans ce rapport homme-femme que Bell Hooks décrit très bien. Mmh. Voilà. Et pour moi, c'était aussi quelque chose qui est assez intéressant à rendre visible, cette idée du mensonge. Mmh. Et le rapport du mensonge, le rapport au contrôle et effectivement du patriarcat aussi. Bah, tout ça, en fait, il y a des liens qui se font. Donc pour moi, voilà, c'est...
Lire, ça permet de comprendre ça.
Bah, c'est... Si Bell Hooks était là encore, si elle était encore vivante, elle aurait pu me le dire de haute voix. La lecture, c'est sa pensée. C'est la puissance de sa pensée. Effectivement, le texte permet de pouvoir accéder à la pensée de l'autre et pouvoir lire ces textes-là. C'est aussi d'avoir accès à cette liberté-là que les gens se donnent à un certain moment donné.
On fait un signe silencieux vers Etel Adnan. Elle faisait partie de vos choix.
Oui, mais...
Le temps nous a manqué.
Ouais, dommage. Etel Adnan, c'était
mais
quoi?
Mais on pense à elle.
Oui, très fort, parce qu'elle est... c'était quoi le texte d'Etel Adnan? Ah bah, je veux le lire, si vous voulez, parce que je vous ai fait lire. Et ça, je veux bien vous le lire, parce que ce texte, il est tellement beau. Vous voyez, comme quoi, j'ai un rapport à la lecture, et finalement...
et finalement, je demande à lire.
Mais j'avais vraiment envie de vous lire ce texte que je trouve vraiment magnifique, pour le coup. Debout dorment les arbres de cette forêt qui cria la nuit quand la lune regardait ailleurs. Disparu les voiliers, la mer, dans cette obscurité qui ne tient pas promesse. Un champ de rosiers a été coupé par le vent. Des ombres ressemblent étrangement aux arbres d'hier. Hier et demain sont les murs de nos prisons. Ces ombres nous ont fait atterrir dans des taxis et des maisons, disant à la lumière d'attendre dehors, mais la lune avait raison de ne pas s'en faire. Les noces de l'histoire avec le café que nous buvons, en nos jours sans cesse plus courts, éveillent nos besoins de réinventer l'amour. Des coquillages vides reposent sur la plage à des heures toujours incertaines. L'Indien refuse de couper l'herbe car elle est, dit-il, la chevelure de sa mère. Et je lui ai promis que je ne briserai aucune pierre. car elle pourrait bien être la maison de son âme. La philosophie nous ramène à la simplicité. Voilà.
Trop beau. Merci beaucoup.
Bah, c'est moi qui vous remercie.
Franchement, c'est un super voyage.
Bah, merci.
Ah oui, une minute de silence.
Ah, pour l'ambiance. Ok. Bien si je fais pas de... C'est silencieux.
Some point in the past, I dreamed of it now, that I finally grasped, couldn't tell you just how, I know it wasn't by chance, couldn't say that I planned, but it's cake that I eat, you could say that it panned, I was riddled with doubt, knew I was the man, with no money to count, who care who I am, anyone who were here, anyone who would stay, one by one a career, made out of mistakes, started out in a jam, ended up on stage, long way from the park, still there in the way, kept alive in my heart, I took a vibe on a plane, inspired a spark, ignited a flame, not afraid of the dark, so I thrive in the grave, when the move wasn't clear, on the grind I would pave, yeah I'm making my mark, like a permanent stain, redefined it as art, when provided a frame, live life in the wind, take flight on the wind, just go with the flow, who knows where it is, no matter the time, gotta come with the soul, dust on I'ma shine, cause the light is within, live life in the wind, take flight on the wind, just go with the flow, who knows where it is, no matter the time, gotta come with the soul, dust on I'ma shine, cause the light is within.
À la prise de son, à l'atelier de Mohamed Bourouissa, c'était Jérôme Casamayou. Au mixage, Valérie Lavallard. À la réalisation de cet épisode, Vivien Demeyer. Vous pouvez évidemment retrouver toutes les références des textes évoqués par Mohamed Bourouissa sur le site du Book Club, franceculture.fr, et c'est aussi sur cette page que vous trouverez tous nos portraits de bibliothèque. Un très grand merci à toute l'équipe du Book Club. En bonne et due forme, quoi.
Ah, j'avoue que c'est assez clair.
Ça va direct dans la bande sonore. Ça, c'est clair.